Et c'est le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une défaillance de la gendarmerie qui risque de faire du bruit. Un gendarme a refusé hier de venir en aide à une femme en danger, et cela en plein lancement du Grenelle contre les violences conjugales. Une scène dont le chef de l'État en personne a été témoin, récit à suivre dans un instant. Le géant de la viande, Bigard, a signé en justice. Des associations exigent que le groupe publie enfin ses comptes. Dans ce journal également, un tournant dans la lutte contre les armes aux États-Unis. Les magasins Walmart vont arrêter de vendre certaines munitions. L'autisme et ses origines parfois génétiques. Des médecins se prononcent pour un dépistage plus systématique. Et puis, la sortie d'un manga sur le rugby à 2 semaines du mondial au Japon.
Et l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes est donc bien Alexis Corbière, le député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis.
France Inter.
Et on revient ce matin encore sur les violences conjugales, Sébastien, avec cette histoire qui illustre à elle seule toute l'ampleur du chantier.
On appelle ça un cas d'école. La scène se déroule hier au centre d'appel du 3919, ce centre téléphonique pour les femmes victimes de violences. Emmanuel Macron a décidé de faire une visite au siège parisien en compagnie seulement de 2 journalistes. Le chef de l'État est là pour observer le travail des écoutantes. Il s'engage à ne pas interférer et le président est alors témoin d'un appel qui va profondément le choquer. La suite est racontée par Pauline Pénanec.
Le chef de l'État se fait discret. Il convient d'écouter un appel sans intervenir. L'écoutante du 3919 prend l'appel et entend cette dame, 57 ans, au bout du fil, en détresse. Elle explique qu'elle est à la gendarmerie pour porter plainte contre son époux qui la frappe et demande au gendarme de l'accompagner à son domicile pour récupérer ses affaires. Mais le militaire refuse catégoriquement. Même lorsqu'il récupère le téléphone pour parler à l'écoutante du 3919 qui tente en vain de plaider la cause de la victime. Il ne sait pas que le chef de l'État l'entend et répond que ça n'est pas dans le code pénal. Il faut un ordre d'huissier. Emmanuel Macron n'interviendra jamais lors de cet échange mais s'indigne. Ça vous arrive souvent ? Demande-t-il à l'écoutante. Oh oui, et de plus en plus, lui répond-elle. Une défaillance, réagit la direction générale de la gendarmerie nationale. Elle annonce l'ouverture d'une enquête administrative pour déterminer les circonstances de ce manquement.
Et cette défaillance de la gendarmerie fait déjà réagir ce matin les associations. Écoutez Caroline Dehas du collectif Nous Toutes.
J'espère que Emmanuel Macron, en étant confronté à la réalité de ce que vivent les femmes victimes de violences au quotidien, va prendre des décisions qui vont changer la vie sur le terrain. Et il le dit lui-même, c'est un problème de formation des professionnels. Les professionnels ne sont pas réellement formés à la détection des violences, à l'accueil des femmes victimes de violences et à l'orientation des femmes victimes de violences. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire des décrets ou de changer des lois. On n'a pas besoin de faire une décision d'huissier. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a toutes les données en main pour faire changer cette situation. La balle est dans son camp. Il faut qu'il la saisisse et qu'il mette les moyens sur la table.
Voilà, ajoutons enfin que dans l'enquête sur le féminicide présumé de Cagnes-sur-Mer, la jeune Salomé de 21 ans retrouvée morte sous un tas d'ordures, son compagnon qui nie les faits, a été mis en examen pour meurtre écroué hier soir. Gérald Darmanin, meilleur élève de la classe en matière de suppression de fonctionnaires, le ministère de l'Action et des Comptes Publics va voir ses effectifs baisser de 5800 emplois dans les 3 prochaines années. Annonce faite hier soir, au total près de 10 000 fonctionnaires en moins sur le quinquennat. Une suppression justifiée, dit-il, par les réformes. Le prélèvement à la source notamment et la fin de la taxe d'habitation. Les syndicats ont prévu de manifester le 16 septembre prochain.
Il est 7h34, Sébastien. C'est la star du steak haché et le champion aussi de l'opacité.
Le groupe Bigard refuse de publier ses comptes depuis 5 ans et cela malgré la loi. Un refus sous prétexte de ne pas vouloir se dévoiler à la concurrence. Eh bien, cela pourrait changer. Comme le très secret groupe Lactalis, cet autre géant de l'agroalimentaire est assigné en justice par 2 associations, Lanceurs d'alerte et L214, qui veulent le forcer à faire toute la transparence sur ses marges et l'utilisation des aides publiques. Les explications de Manuel Ruffez.
Ce n'est pas une première pour Alexandre Renaï de l'association Lanceurs d'alerte. C'est déjà lui qui, avec la Confédération Paysanne, s'est attaqué au compte de Lactalis, autre géant de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, avec notamment l'association L214 qui dénonce la même opacité dans les méthodes d'abattage que dans les comptes, il veut obtenir la publication de ceux de Bigard.
Le groupe Bigard a perçu de l'argent du contribuable, des dizaines de millions d'euros de CICE, des allègements de charges également. Et à l'heure actuelle, sans publicité des comptes, le contribuable ne peut pas exercer le moindre contrôle sur l'utilisation de cet argent public. Ça nous semble très problématique qu'un groupe puisse bénéficier d'autant d'argent public pour mettre à mort des animaux sans que les citoyens puissent exercer un contrôle sur ses activités.
Et il le soutient, le groupe ne respecte pas la loi et s'expose à de lourdes sanctions.
Grâce à la loi Sapin 2, les sanctions ont été aggravées et risquent maintenant une amende pouvant atteindre jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires quotidien. Eu égard au chiffre d'affaires considérable en milliards d'euros de Charal, on peut imaginer qu'ils pourraient être condamnés à payer de lourdes amendes s'ils s'obstinaient à ne pas publier leurs comptes.
Il regrette juste, Alexandre Renaï, que des citoyens soient obligés d'engager de telles démarches, alors que des ministres, notamment celui de l'agriculture, ou même les présidents des tribunaux de commerce, pourraient, souligne-t-il, le faire eux-mêmes.
Première audience demain au tribunal de commerce de Quimper dans le Finistère. Là, il s'agit d'un autre géant commercial, le numéro 1 américain de la grande distribution. Walmart vient de prendre une décision majeure dans la lutte contre les armes à feu aux États-Unis. Un mois après une fusillade meurtrière dans l'un de ses centres commerciaux d'El Paso au Texas, qui a coûté la vie à 22 personnes, eh bien Walmart, premier vendeur d'armes outre-Atlantique, va mettre fin à la vente de certaines munitions. Les précisions de notre correspondant à Washington, Gregory Phillips.
Le PDG de Walmart, Doug McMillon, annonce dans ce communiqué que son groupe cessera bientôt de vendre des munitions pour les fusils d'assaut semi-automatiques de type AR-15, comme celui utilisé par le tireur d'El Paso. Précision, quand les stocks seront épuisés. Même chose pour les munitions destinées aux armes de poing. Enfin, dans les États où il est autorisé de porter un revolver à la ceinture, Walmart va interdire à ses clients de venir faire leurs courses avec une arme à la vue de tous. Dans son communiqué, le patron du numéro 1 mondial de la grande distribution dénonce aussi le statu quo inacceptable sur ce dossier et réclame un renforcement du contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. La NRA, le puissant lobby pro-armes aux États-Unis, a réagi immédiatement en affirmant que Walmart cédait à la pression des élites anti-armes et que les clients iraient désormais vers d'autres magasins qui, à ses yeux, soutiennent plus activement les libertés fondamentales américaines. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Toujours aux États-Unis, le projet de mur de Donald Trump avec le Mexique a franchi cette nuit une nouvelle étape. Le Pentagone vient de débloquer 3,6 milliards de dollars pour financer la construction de 280 kilomètres de murs. En conséquence de quoi, des dizaines de projets de construction de locaux militaires seront reportés. On y revient dans le journal de 8 heures. En bref, encore à l'étranger, Boris Johnson lui enchaîne les échecs devant le Parlement après avoir perdu sa majorité dans la après-midi hier. Le Premier ministre britannique a perdu hier soir un vote crucial face à l'opposition. Une motion pour lui imposer un nouveau report du Brexit devrait être votée aujourd'hui, ce dont Boris Johnson ne veut à aucun prix. Résultat, le Premier ministre britannique envisage plus que jamais de déclencher des élections anticipées. Puis encore en Europe, en Italie, les adhérents du mouvement 5 étoiles donnent leur feu vert à la nouvelle coalition. Ils étaient interrogés par Internet sur la nouvelle alliance passée entre leur mouvement et le centre-gauche du Parti démocrate. Ils ont dit oui à près de 80%.
Il est 7h38, des médecins français, Sébastien, plaident pour un dépistage génétique de certains types d'autisme.
L'autisme qui a des causes multiples, mais depuis quelques années, on a découvert qu'elle pouvait être d'ordre génétique. En effet, ainsi, une équipe de l'hôpital Necker à Paris vient de démontrer que chez les patients autistes avec déficit intellectuel, une mutation génétique ou une anomalie chromosomique était présente dans un tiers des cas. Ces médecins militent donc aujourd'hui pour généraliser les dépistages, ce qui est encore loin d'être le cas, Véronique Julia.
Pendant 20 ans, le professeur Arnold Munich a parcouru avec son équipe une trentaine d'hôpitaux de jour et d'instituts médicaux éducatifs. Pédiatre généticien et président de l'Institut des maladies génétiques Imagine, il a cherché parmi des centaines de jeunes patients si leur autisme associé à un déficit intellectuel avait une origine génétique. La réponse s'est révélée positive pour 30 à 35% d'entre eux et les anomalies concernaient 27 gènes en particulier. Elles étaient parfois transmises par les parents, mais le plus souvent elles n'étaient pas héréditaires. Arnold Munich a ainsi pu rassurer des parents qui n'osaient pas concevoir un deuxième enfant.
Si un jeune autiste est le premier-né et qu'on n'a pas trouvé d'explication, combien de mamans renoncent à avoir d'autres enfants ? À l'inverse, dire à une maman dont c'est le premier enfant, oui, c'est un coup dur, mais on a trouvé ce que c'est. C'est une anomalie génétique, elle est accidentelle. Vous n'en êtes pas porteur ni porteuse, ça ne reviendra pas. Vous pouvez avoir en toute tranquillité un autre enfant, c'est une délivrance.
Nommer la maladie, connaître sa cause, savoir qu'une thérapie pourra peut-être un jour en venir à bout et surtout pouvoir dire à des parents si l'anomalie est héréditaire ou non, elle l'est dans 30% des cas seulement, c'est le le but des tests génétiques qui devraient, d'après le médecin, se faire beaucoup plus systématiquement une fois que le diagnostic est posé, pour les autistes déficients intellectuellement seulement, car chez les autistes à haut potentiel, la piste génétique est d'après lui moins intéressante à explorer.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter. On termine avec du rugby en bande dessinée. On connaissait Olivier Tom, le manga japonais sur le football, Jeanne et Serge sur le volleyball. Il va falloir compter sur une nouvelle série à sortir aujourd'hui, Full Drum, un manga sur le rugby à l'occasion du mondial qui commence dans 17 jours au Japon, Jérôme Val.
Dans cette saga, il y a tous les ingrédients qui font le succès des mangas. Un beau garçon, une histoire d'amour, mais aussi la volonté de réussir. Mehdi Ben Rabah, directeur éditorial chez Pika, l'un des leaders de l'édition de manga en France.
On a un héros qui est attachant, il est drôle, il est un peu brut, il a des prédispositions pour le rugby. Et c'est ça qui va le faire briller en club, alors qu'à la base, il voulait juste plaire à une fille qui lui avait tapé dans l'œil.
Au Japon, le sport est l'un des thèmes favoris des mangaka, les auteurs de BD, mais en France, ces thématiques ont du mal à décoller.
Je pense que l'une des raisons principales, c'est la longévité de ces séries. C'est vraiment des séries fleuves qui peuvent des fois dépasser les 60 tomes. C'est un investissement quand même sur la durée.
Avec les événements à venir au Japon, Pika parie sur le manga de sport en lançant sa propre collection Sport Addict, Mehdi Ben Rabah.
On a des fenêtres de tir là qui s'offre à nous. Donc là, c'est la Coupe du Monde de rugby au Japon en septembre pour Full Drum. C'était l'occasion rêvée. Mais on aura d'autres sports très populaires comme le judo ou la natation dès l'an prochain. À l'occasion des Jeux Olympiques.
Full Drum sera décliné en 5 volumes avec une sortie prévue tous les 2 mois.
Voilà, Full Drum, manga rugbystique à sortir aujourd'hui.
Merci Sébastien Logeni.